Ce soir, la question que nous posons, les sondages souffrent-ils d'un excès de confiance ? Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Pour la primaire de la droite et du centre, plutôt qu'Alain Juppé, Nicolas Sarkozy ou François Fillon, misez sur Nathalie Kosciusko-Morizet ou Jean-Frédéric Poisson. Leurs chances de l'emporter sont certes minces, mais imaginez un instant qu'il soit vainqueur au soir du second tour. Vous pourrez alors tirer tous les bénéfices de votre pronostic hasardeux en ayant été un des rares, si ce n'est le seul, à faire mentir les sondages. Oui, car les sondages servent aussi à ça, faire des paris improbables sur l'avenir. Un usage parmi d'autres, d'aucuns s'en inspireront pour choisir le candidat qui a le plus de chances de l'emporter au second tour de la présidentielle, d'autres pour éliminer celui qui leur paraît le plus dangereux. Certains n'iront pas voter, puisque les sondages le disent, les jeux sont déjà faits. Alors il sera toujours temps, au lendemain des résultats, de regretter son choix en se disant qu'on a peut-être eu tort, en fait, de trop croire dans les sondages, que sans eux, Hillary Clinton serait à la Maison-Blanche, Lionel Jospin serait devenu président, le Royaume-Uni resterait en Europe. Alors les sondages souffrent-ils d'un excès de confiance ? C'est la question que nous allons poser ce soir à trois invités. Daniel Gaxi, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste de la sociologie du vote. Vous êtes membre du comité scientifique de l'Observatoire des sondages, qui a un regard un peu critique sur les sondages. Il ne faut pas le confondre avec la commission des sondages. On aura l'occasion de discuter de ces différents organismes. Ça a fait sourire, je l'ai entendu, je l'ai vu. Jérôme Sainte-Marie, bonsoir.
Bonsoir.
Directeur de Pollingvox, société d'études et de conseils spécialisée dans les enjeux d'opinion. C'est un institut de sondage, en fait, c'est ça ?
Pour l'essentiel, c'est un institut de sondage, tout à fait.
Vous êtes passé par l'Institut Louis Harris, par BVA, par CSA, et vous avez publié l'an dernier aux éditions du Moment Le Nouvel Ordre Démocratique. Puis notre troisième invité, Martial Foucault, bonsoir.
Bonsoir.
Directeur du CEVIPOF, le Centre de Recherche Politique de Sciences Po, laboratoire de référence pour l'étude des attitudes politiques et l'analyse du comportement électoral, ça c'est ce qui est écrit sur le site du CEVIPOF, est en cours une large étude depuis plusieurs mois et qui va aller jusqu'en juin 2017, que vous menez avec l'Institut Ipsos et avec le journal Le Monde, l'enquête électorale française. Alors même s'il va être question évidemment ce soir des sondages et de la politique française, je voudrais quand même qu'on démarre avec la question américaine et l'élection de Donald Trump. Est-ce que vous diriez, Daniel Gaxi, que en la matière, les sondages, comme on l'a beaucoup dit après le scrutin, avaient tout faux, qu'ils se sont vraiment plantés ?
Alors, à front renversé, je dirais que les sondages se trompent jamais, puisque, en réalité, ils se font toujours avant l'élection, et on peut toujours dire qu'il y a eu des changements entre le moment où le sondage a été fait et le moment de l'élection. Bon, évidemment, plus on se rapproche du moment de l'élection, plus les sondages, plus on peut penser que l'écart est faible. Et donc, on peut, en ce sens, dire, même si c'est pas très rigoureux sur le fond, on peut se demander s'ils se sont trompés ou pas.
Est-ce qu'en la matière, on pouvait justement voir une réduction des écarts, en tout cas la faiblesse de ces écarts, en regardant peut-être de manière un peu plus attentive que ça n'a été fait, ces sondages ?
Absolument. Alors, je vais peut-être vous surprendre, mais je pense qu'on a beaucoup exagéré les erreurs des sondages aux États-Unis. Alors déjà, il faut distinguer les sondages nationaux et les sondages par État. Donc les sondages nationaux, je vais aller vite, ont, dans une proportion importante, y compris quand on regarde la dernière semaine, ils ont annoncé une victoire de Hillary Clinton. Et c'est ce qui est advenu. Simplement, ce qu'on peut dire, c'est que l'écart annoncé...
C'est ce qui est advenu. Vous voulez dire que c'est elle qui a eu la majorité des voix.
Absolument. Hein, oui, voilà. Ça, c'est quelque chose sur lequel on n'insiste pas suffisamment et qui est très surprenant d'un point de vue européen, d'un point de vue français. C'est que Hillary Clinton a gagné l'élection en voix. au niveau national. Et pourtant, elle n'est pas élue. Donc, en réalité, ce qu'on peut dire, c'est que les sondages ont annoncé une victoire d'Hillary Clinton, mais avec une marge tout à fait considérable et bien au-delà, j'ai les chiffres ici, je peux les donner si ça vous intéresse, une marge bien supérieure à la marge effective qui est de l'ordre de 0,45%, 0,5%. Et en réalité, on avait des écarts beaucoup plus importants qui allaient et qui étaient toujours en dehors de la marge d'erreur.
Bon, alors, on va pas trop rentrer dans le détail de ces résultats des États-Unis, mais sur les États,
alors, voilà. Sur les États, en réalité, quand, là, on regarde, quand on regarde ça. Les tout derniers sondages par État et les résultats, on s'aperçoit que dans l'ensemble, il y a concordance, sauf dans trois cas. Hawaï, mais là, c'est pas un bon exemple parce que le sondage est au milieu du mois d'octobre. Et il y a deux cas seulement. C'est le Wisconsin et la Pennsylvanie. Où là, Clinton est annoncée gagnante plusieurs fois. Hein, c'est pas un seul sondage dans les tout derniers, et c'est Donald Trump qui arrive en tête.
Donc des sondages américains plutôt pas trop mauvais. Donc comme vous dites, ça, je suis un peu à front renversé, Daniel Gaxi, parce que vous avez plutôt a priori un regard un peu critique sur les sondages. Et vous nous dites là, ils ont plutôt bien fait leur travail. Alors je sais pas si Jérôme Sainte-Marie va nous dire du coup l'inverse. Est-ce que vous considérez que les sondeurs américains n'ont pas été suffisamment pertinent, c'est ce que laisse entendre quand même un certain nombre de vos confrères en disant oui, ben ils se sont plantés parce qu'ils ont des méthodes aujourd'hui qui sont plus celles que nous on utilise. Ils travaillent beaucoup par téléphone. Or, on sait bien que quand il y a un sondeur qui intervient, ça peut modifier les intentions, en tout cas l'annonce des intentions de la personne qui est sondée.
Oui, c'est un argument comme un autre. On va continuer à parler un peu à front renversé. Donc, comme sondeur, moi, je ne suis pas tout à fait satisfait. Alors, je suis pas un grand spécialiste hein, des sondages américains, mais cependant, quand vous avez des sondages qui se suivent et se répètent et qui annoncent la victoire d'un camp avec une marge importante et que ça ne se vérifie pas, ça pose un problème. Alors, dans ce cas-là, que disent les sondeurs, enfin certains sondeurs, pour se justifier ? Alors, évidemment, quand ça tombe pile, c'est un argument qu'on n'entend pas. Mais quand ça ne se produit pas, eh bien, on dit oui, mais beaucoup de gens, mettons 25% des gens se sont décidés au dernier moment. Mais c'est un argument qui est totalement fallacieux, puisqu'en fait, quand on regarde, on a des enquêtes post-électorales, quand on regarde comment ont voté ces 25%, généralement, ils ont voté dans le sondage comme ont voté les autres. Donc ça n'explique rien en réalité, et puis surtout, vous ne verrez jamais un sondeur vous dire « je suis tombé juste, mais en fait, j'ai eu de la chance parce que 25% des gens se sont décidés à la dernière minute ». Donc ce n'est pas un argument qui est recevable. Moi, je crois profondément dans cette technique, dans les différentes techniques des sondages, elles ne sont pas toutes équivalentes, mais justement, je crois qu'on délivre une information et que cette information doit être précise ou bien comporter suffisamment d'aléatoire pour que ce soit un avertissement pour les lecteurs.
Martial Foucault, je ne peux pas forcément vous demander d'arbitrer en tout cas et de sanctionner ou pas le travail des sondeurs américains, mais quand il y a on va dire une différence entre ce que disent les sondages et le résultat du vote, est-ce que ça peut être lié à un problème de méthodologie du sondage ou bien est-ce que vous faites peut-être un constat différent qui serait de se dire c'est plutôt l'interprétation des sondages qui était mauvaise, c'est finalement un mauvais apprentissage de la lecture de ce que disent les sondages?
Au fond, c'est un peu des deux, mais je mettrai en priorité le premier point méthodologique. Moi, je crois, au fond, et ça va peut-être vous surprendre, mais il n'y a pas eu assez de sondages aux États-Unis dans les États. Pourquoi ? Parce que quand on regarde, effectivement, le cas de la Pennsylvanie, Wisconsin est important. Je pense qu'il faut regarder aussi l'état du Michigan, où il s'est produit des choses intéressantes. Si vous voulez, la vraie difficulté quand on fait un sondage pour une intention de vote à une élection présidentielle, aucun institut de sondage aux États-Unis n'est en mesure de prendre en compte le système électoral, qui est particulier aux États-Unis. On construit une intention de vote par État et on pense que chaque électeur dans chaque État se vaut. Or, c'est pas cela. On a bien vu le système aujourd'hui produisait des effets. C'est pour ça que globalement, les sondages sont pas si mauvais aux États-Unis sur l'intention de vote. L'écart avec le vote réel est très faible. En revanche, les effets de ce vote par État a conduit à une erreur quand même majeure.
Donc si le travail avait été fait par des instituts de sondage français, avec une autre méthodologie, ça aurait été mieux?
Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas, avec un sondage, tenir compte du système électoral, que tel État où on a une intention de vote de 45% pour Hillary Clinton, voilà ce que ça donne quand un État va envoyer 6 délégués ou 100 délégués. Donc on ne peut pas saisir cela. Ce qui veut dire que, je ne mets pas de côté la question de l'interprétation, mais vous voyez, on est quand même sur une accumulation de sondages qui a atteint, je crois, un record historique, mais comme à chaque fois sur une élection présidentielle américaine. Et comment se distinguer dans un sondage lorsque chaque média commanditaire d'un sondage annonce voilà, Hillary Clinton en tête. Donc il y a une vraie difficulté dans l'interprétation de dire, écoutez, c'est Hillary Clinton, mais avec une marge d'erreur. Ça, maintenant, je crois que c'est à peu près acté. On fait attention dans le commentaire en indiquant la marge d'erreur. Mais moi, ce qui m'a surtout frappé aux États-Unis, c'est l'incapacité dans le commentaire d'indiquer que des personnes n'étaient pas certaines d'aller voter. Et en fait, quand on construit une intention de vote, c'est ceux qui nous disent « on est certain d'aller voter ». Ce qui s'est passé au Michigan, Pennsylvanie, ce sont des personnes, et on a fait ce travail au CVPOF, on a repris les éléments, ceux qui étaient presque certains d'aller voter. Quand on intègre ces personnes, on converge vers les résultats réels. Mais vous voyez le problème que ça pose, comment construire une intention de vote sur des gens qui ne sont pas certains d'aller voter? C'est une aberration scientifique.
Donc on ne met pas suffisamment en avant le niveau d'incertitude. Est-ce que vous avez l'impression qu'à contrario, en France, la question de l'incertitude, elle est suffisamment justement mise en avant pour faire comprendre à ceux qui reçoivent ces sondages qu'on est dans quelque chose qui n'a pas une fiabilité, évidemment, à 100%, Daniel Caxi.
Oui, je voudrais revenir quand même sur les problèmes méthodologiques.
Sur l'incertitude, je veux bien que vous répondiez, on reviendra sur les problèmes méthodologiques.
C'est l'incertitude, c'est le problème. Je réponds à votre question. En réalité, ce qu'on peut dire sur ces sondages américains, c'est que, alors, le mot tromper est un mot qui ne convient pas bien, hein, mais bon, on va l'utiliser quand même. Bon, ils se sont moins trompés qu'on ne l'a dit. Et en particulier, il y a beaucoup moins d'erreurs de sens, hein. Voilà. Au sens où on aurait annoncé le candidat A et c'est B qui passe. Il y a beaucoup moins d'erreurs de ce type. Encore une fois, il y a deux états où il y a une erreur de sens, hein, c'est-à-dire on donne Clinton et c'est Trump. Bon, je laisse tomber Hawaï. Ouais. Mais par contre, il y a des erreurs d'amplitude. C'est-à-dire que l'écart, hein, j'ai regardé les sondages la dernière semaine, les sondages nationaux, l'écart qui est annoncé, qui est bien au-delà de la marge d'erreur et qui est bien supérieur au résultat final. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire, et ça c'est un problème fondamental des sondages, c'est qu'il y a des biais d'échantillonnage, quelle que soit la méthode.
Et quel que soit le territoire sur lequel ça se passe, c'est-à-dire là on parle beaucoup des États-Unis et c'est normal, mais est-ce que vous constatez les mêmes biais dans les sondages qui sont réalisés en France lors des campagnes électorales?
Mais quiconque a fait une enquête de sociologie politique, et j'en fais moi-même depuis très longtemps, qui essaye de joindre des hommes et de femmes de tous milieux, va constater qu'il y a des milieux qui sont beaucoup plus faciles que d'autres à approcher. Et il y en a qui sont très difficiles, quelle que soit la qualité de l'enquête, quels que soient les efforts, quel que soit le financement, il y a toujours des biais d'échantillonnage. On peut essayer de les corriger, oui, mais ils existent toujours. Et à mon avis, c'est ça le problème. C'est-à-dire que une partie des gens qui votent Trump sont très difficiles d'accès, exactement d'ailleurs comme une partie des gens qui votent pour des partis dits populistes en Europe, par exemple le Front National en France, ils sont très difficiles à approcher, ils sont sous-estimés, et donc il y a toujours ce risque d'interprétation. J'en viens à votre question.
Est-ce qu'il y a, Jérôme Sainte-Marie, justement, des méthodes qui permettent, si ce n'est d'évacuer ces biais d'échantillonnage, en tout cas de les réduire aujourd'hui? Or, on sait que, par exemple, certain nombre d'enquêtes se font beaucoup par Internet. Est-ce que ça, c'est une méthode qui réduit le risque d'erreur?
Alors, il faut savoir qu'historiquement, c'est quand même les études en face-à-face au domicile des personnes interrogées qui donnaient les meilleurs résultats. En réalité, contrairement à un certain mythe, quand les gens sont face à l'intervieweur, qui donc, en plus un intervieweur en face à face, c'est souvent quelqu'un dont c'est la profession, et qui il y a une forme de maïotique, si vous voulez, les gens si j'ose dire se mettent à table, et donc les gens effectivement sont assez sincères, en tout cas beaucoup plus que par téléphone. Les enquêtes en face à face, alors malgré il y a des problèmes d'accès pour les quartiers les plus populaires ou les quartiers les plus riches. Et de manière plus globale, il y a des études qui ont été faites, l'une a été faite par la Sofres il y a une quinzaine d'années, une autre que j'avais menée à l'époque à BVA, sur des énormes échantillons, des énormes fusions d'omnibus, montraient qu'effectivement on avait une distorsion de notre échantillon. Essentiellement, on n'avait pas suffisamment dans notre échantillon de personnes plus ou moins marginalisées socialement. Alors, on n'a pas les plus riches, ça c'est évident, ou très rarement, mais ceux-là, ils comptent très très peu électoralement, mais on a effectivement des catégories qui sont les plus modestes, enfin, pas modestes, les plus un peu marginalisées, si vous voulez, avec la crise économique, c'est quand même une population qui est plutôt en expansion.
Et comment vous faites alors pour les intégrer, justement? Alors, vous imaginez ce qu'elles pourraient voter?
Je vais tenir un propos qui n'est pas tout à fait politiquement correct, et j'espère bien me faire comprendre par les auditeurs, mais je renverrai au livre de Daniel Gaxi, Le sens caché. Il se trouve que précisément, on a Le sens caché, donc je laisserai Gaxi le présenter s'il le souhaite, mais il y a de fait un accès au vote qui est assez inégalitaire dans une démocratie comme dans toute démocratie, et donc on a en fait un certain nombre de personnes, les personnes qui ne sont pas inscrites, ou alors qui ne savent pas qu'elles sont inscrites, ou bien qui ne vont pas voter, même si elles sont inscrites, évidemment, et ça a un profil sociologique particulier. Donc le biais que l'on a dans notre échantillonnage est en soi insatisfaisant d'un point de vue pour un sondeur, si vous voulez, mais en réalité n'a pas des conséquences dramatiques sur l'établissement des intentions de vote, puisque les gens qu'on n'a pas sont généralement des gens qui précisément ne vont pas voter.
Martial Foucault.
Oui, non, c'est clair qu'il y a des, quelles que soient les précautions méthodologiques que l'on peut prendre lorsqu'on travaille sur des échantillons, petits ou grands. Alors, a fortiori, lorsque les échantillons sont petits, le fait de ne pas atteindre des profils qui vont manquer dans une sorte de, quand même, une réalité sociale du pays pour lequel on veut connaître les attitudes vis-à-vis du vote, peuvent causer potentiellement des dégâts. Ça, c'est évident. Alors, il y a plusieurs alternatives. On va essayer de grossir l'échantillon pour essayer d'avoir le plus grand nombre de catégories sociales. Mais là aussi, il y a un vrai débat et il s'est posé aux États-Unis. Au fond, vaut-il mieux construire un sondage à partir d'un échantillon dit représentatif d'un pays, alors représentatif en termes d'âge, de genre, de catégorie socio-professionnelle, lieu de résidence, ou bien vaut-il mieux choisir au hasard des personnes sur lesquelles on n'aura aucun doute vis-à-vis de catégories qu'on n'aurait pas joint. Et c'est un débat intéressant parce qu'on voit qu'il y a globalement dans le domaine des sciences sociales une tendance à aller de plus en plus vers le tirage au sort pour enquêter des personnes. Et même sur le tirage au sort, alors oui, les biais sont ni plus importants ni moins importants, c'est d'autres biais. On a d'autres biais. Mais je voudrais insister sur un point parce que je crois qu'il faudrait peut-être pas donner au sondage une sorte de valeur prédictive plus importante qu'elle n'est réellement. Quand on dit les sondages aux États-Unis n'ont pas donné le vainqueur, c'est quand on installe le sondage dans une prédiction. Or, alors oui, c'est vrai que dans le paysage des sondages, on a parfois cette tendance, et on revient à l'idée de l'interprétation, à penser que le sondage a une valeur prédictive. Il faut aussi voir le sondage tout simplement comme un instrument qui permet de comprendre un certain nombre d'attitudes, de valeurs.
Mais vous savez bien que c'est pas comme ça que les sondages sont utilisés, notamment par nous, les journalistes. C'est-à-dire, nous, on a aussi besoin, quand on nous produit une étude, alors soit sur des intentions de vote, soit sur des enquêtes d'opinion, d'en sortir quelque chose d'un petit peu spectaculaire, c'est-à-dire qu'il puisse aussi être résumé en une phrase.
Je vais prendre un exemple.
Et les sondeurs ont aussi une responsabilité là-dedans. C'est-à-dire, ils savent bien ce qu'ils vendent aux journalistes.
Je vais prendre un exemple. Si on veut savoir véritablement si aujourd'hui le vote Front National est expliqué par une tendance des classes ouvrières à adhérer aux idées du Front National. C'est certainement pas avec un seul sondage qu'on pourra établir un lien de causalité. On va peut-être trouver, parce que ça renvoie quand même un point qui parfois me dérange dans l'usage qui est fait, y compris dans notre discipline de la science politique, l'usage qui est fait des sondages comme valeur explicative, en pensant qu'il suffit de trouver un lien, une sorte de corrélation entre le vote des ouvriers et le vote Front National, alors ça aurait une valeur explicative. Non, on ne peut pas procéder comme ça. Et ça, il faut le répéter tous les jours. Et vous voyez bien que dans l'interprétation, et on va certainement dimanche soir regarder les catégories qui ont voté à cette primaire et quels candidats ont choisi, on dira, bien voilà, les catégories peut-être très riches et très aisées ont voté Alain Juppé, et c'est ce qui explique le vote Alain Juppé. C'est une erreur totale.
Et c'est cet exercice auquel se livrent en général les politologues qui viennent des instituts de sondage. Pas seulement eux, mais enfin, voilà. En tout cas, voilà. Eux notamment. Jérôme Sainte-Marie et Daniel Gaxi veulent réagir.
Alors, deux points. Le premier point, effectivement, puisqu'en fait, on parle là de l'enquête électorale française, qui effectivement, c'est l'objet que tout sondeur aimerait faire, puisqu'effectivement, il y a plusieurs vagues, et surtout, l'échantillon est gigantesque, ce qui permet d'avoir des analyses très fines. Par exemple, j'ai vu une note, il y a beaucoup de traitements secondaires accessibles sur le site du CEPOF, c'est moi qui fais votre publicité, mais dans la mesure mesure où, effectivement, j'ai lu par exemple une analyse sur la pénétration du vote Front National chez les fonctionnaires, où, effectivement, la taille de l'échantillon permet de distinguer selon les trois catégories de fonctionnaires. Enfin, il y en a plus que ça, mais enfin, selon les trois grandes catégories de fonctionnaires ABC. Ça apporte un outil de connaissance qui est vraiment très précieux, qui en plus est public et gratuit. C'est quand même assez appréciable. Il y a cet aspect-là. Après, il faut distinguer entre le sondage et pronostic. Les sondeurs, en réalité, délivrent l'état de l'opinion au moment où ils réalisent leur enquête. Mais moi, je suis, si vous voulez, quand je fais un sondage d'intention de vote, je suis tout à fait capable de dire, voilà, je vous donne l'état d'opinion aujourd'hui. Admettons, pour la présidentielle, on est aujourd'hui au mois de novembre, l'élection présidentielle aura lieu, l'offre n'est pas fixée, etc. Moi, je sais par ailleurs que les catégories populaires, par exemple, vont se politiser plus tard que les autres, rentrent dans le jeu, en quelque sorte, en février, quand l'offre est fixée. Eh bien, moi, mon pronostic, si vous voulez, par exemple, sur le score, je dis ça parce que c'est le plus spectaculaire, le score du Front National n'est pas le même que celui que j'établis dans le sondage.
Sauf que rien ne me prouve, Jérôme Sainte-Marie, que l'état de l'opinion à cet instant T est véritablement celui qui est décrit par les instituts de sondage. C'est-à-dire, finalement, on ne peut pas prouver on ne peut jamais prouver que c'est vrai. Donc, on est obligé finalement de faire confiance aux instituts de sondage. Sauf peut-être à avoir une instance comme la commission des sondages, c'est-à-dire qui vérifie un peu méthodologie, non ?
La commission des sondages, son rôle n'est pas juste de vérifier en principe. Son rôle était uniquement de vérifier la régularité des méthodes pour pas qu'il y ait un changement de méthode entre deux vagues et qu'un mouvement d'opinion soit un pur artefact méthodologique. Si on sort de là, on donne un rôle totalement aberrant. Pour vous répondre en une seule phrase, tout ce que vous dites est vrai sur tous les sondages, sauf sur le dernier sondage. Le dernier sondage fait par un institut avant l'élection présidentielle a évidemment, pour l'institut comme pour tout le monde, valeur de pronostic et permet de valider ou pas ce qui va se passer s'il est fait 48 heures avant.
Daniel Gaxi.
Oui, je reviens sur des questions méthodologiques qui me semblent tout à fait essentielles, y compris pour vous, la manière de présenter les résultats de sondage. Alors, premier point, c'est pas parce qu'on a un très gros échantillon qu'on a un échantillon pour autant représentatif. Dans les enquêtes américaines, il y avait de très gros échantillons, c'est-à-dire jusqu'à 70 000 personnes. Bon, ça n'avait pas empêché de se planter. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je vais dire ça de manière un peu provocatrice, pour me faire comprendre, il n'y a pas de sondage aléatoire. Ça n'existe pas. Il y a des sondages avec des intentions aléatoires, au sens où on va tirer au sort, mais le résultat n'est pas aléatoire. Pourquoi ? Parce qu'une partie des gens qui sont tirés au sort se défilent, ne répondent pas, et ça ne se distribue pas au hasard. Donc, ça, c'est une question que j'ai souvent discutée avec des responsables d'instituts, d'entreprises de sondage dans des pays qui pratiquent cette méthode. Ils prennent d'ailleurs de grandes précautions. C'est fait très, très sérieusement. Mais il faut savoir, et ça, c'est une information capitale qu'il faudrait demander aux entreprises de sondage, c'est qu'on a des proportions importantes, très importantes et croissantes, de gens qui sont sollicités au moment du tirage au sort et qui ne répondent pas. Ça peut aller jusqu'à 90%. Donc, les 10% tirés au sort qui, finalement, acceptent de répondre ne sont pas représentatifs de ceux qui n'ont pas répondu. Ensuite, le dernier point que je voudrais dire, c'est que les biais d'échantillonnage, c'est pas seulement, même si c'est très important, ce qu'a dit M. Sainte-Marie, il y a ça, mais il y a un autre élément très très important, et ça, pensons-y pour 2017 en France, il y a un autre élément, c'est des gens, évidemment, avec un niveau culturel plutôt faible, des milieux sociaux plutôt en difficulté, mais avec une propriété supplémentaire, c'est une grande méfiance. Une grande méfiance par rapport à la politique, une grande méfiance par rapport aux médias. Et ça, c'est assez caractéristique d'un certain type d'électorat, par exemple du Front National en France. Alors ça se recoupe partiellement avec le facteur précédent, mais partiellement seulement. Et donc ça, c'est une source d'erreur extrêmement importante quand on veut avoir une idée du vote pour, par exemple, le Front National en France.
Et Jérôme, ça paraît juste une courte réaction par rapport à ce que disait Daniel Gaxi sur les très nombreux sondés qui refusent justement de répondre aux questions et auquel cas, voilà, c'est 10% qui répondent, ce sont déjà... Il y a déjà un biais dans le fait que, voilà, quand on accepte de répondre, c'est qu'on est... On fait déjà partie d'une certaine catégorie.
J'acquiesce sur un certain nombre de choses que dit M. Gaxi, y compris le fait que, par exemple, il serait intéressant de voir le taux de chute, en quelque sorte, des instituts. Ça, pourquoi pas. Mais le chiffre que vous avez donné est un chiffre qui ne correspond pas.
Il m'a été donné.
Mais c'est un chiffre qui est composite, en réalité. Comme, effectivement, on fonctionne sur la méthode des quotas en fin de terrain, bien sûr, la plupart des personnes ne correspondent pas à ce qu'on... Mais c'est pas... On n'a jamais eu 90% de gens refusant...
Je parlais de sondage aléatoire. C'est le chiffre que m'ont donné des responsables d'entreprises de sondage. Par exemple, celui qui est en charge de l'eurobaromètre à Bruxelles, qui fédère tout ça, sur des sondages aléatoires. C'est jusqu'à, pas toujours, mais jusqu'à 90%.
Je crois pas. Je ne connais pas ce chiffre et je ne l'ai jamais constaté.
Bon, alors voilà.
On ne pratiquait pas de sondage aléatoire.
Ça m'est arrivé.
On ne tranchera pas ce soir sur cette question. Je voudrais qu'on aille maintenant sur l'autre question qui nous a aussi inspiré le titre de ce soir, que je vous rappelle. Les sondages souffrent-ils d'un excès de confiance? Et je rappelle à nos auditrices et à nos auditeurs que nous en discutons avec Jérôme Sainte-Marie, Daniel Gaxi et Martial Foucault sur ce qui est souvent aussi reproché aux sondages, c'est-à-dire de faire l'opinion et d'influencer l'opinion et d'influencer les votes. Alors il y a quelques jours dans le journal Le Monde une tribune d'un collectif de sondeurs qui disait notamment ceci: les sondages, ne serait-ce qu'en raison de la diversité de leurs commanditaires, n'ont en eux-mêmes aucun objectif d'influence, c'est-à-dire il n'y a pas d'intention d'influencer le vote. Par ailleurs, ça ne veut pas dire que les sondages n'ont pas d'influence. Martial Foucault, comment est-ce qu'on arrive à mesurer, mais est-ce qu'on y arrive, l'influence que peuvent avoir les sondages sur le vote?
Il y a plusieurs travaux qui existent. En France, à ma connaissance, je n'ai souvenir que de l'année 2002, l'élection au second tour de Jean-Marie Le Pen, où une collègue canadienne, Claire Durand, avait regardé en détail si l'opinion dans ce changement des quelques dernières semaines avant le scrutin avait pu être d'une certaine manière totalement réactive à l'évolution des sondages.
Il y a beaucoup d'électeurs de gauche qui ont dit après le premier tour, après le 21 avril 2002, si j'avais su que Jospin risquait de ne pas être au second tour, j'aurais voté Jospin.
Oui, alors...
Donc on voit bien quelle peut être l'influence, justement.
Sur cette question, c'est extrêmement compliqué de le démontrer. C'est extrêmement compliqué de le démontrer. Pourquoi je dis cela? Parce que, au fond, et c'est d'une certaine manière, je pense que la science politique française n'est pas prête à aller sur le terrain de l'expérimentation pour pouvoir, parce que ça demande des conditions naturelles exceptionnelles. Il faudrait isoler un groupe de personnes de toute socialisation au sondage. Et vous voyez la difficulté de réaliser une telle expérimentation pour pouvoir effectivement se dire, on a manipulé d'une certaine manière les conditions presque cognitives de Français exposés ou non exposés à des sondages, et là on verrait exactement l'effet réel. Le reste me semble méthodologiquement très fragile pour pouvoir démontrer quoi que ce soit. Une fois dit cela, il faut bien reconnaître, et on est en train de l'observer depuis deux jours, le phénomène Fillon pour l'élection primaire. On se dit, globalement, il y a deux manières de voir l'influence éventuelle des sondages sur une opinion publique. Encore faut-il définir ce qu'est une opinion publique. Mais soit on se dit, notre candidat est très très loin, et donc on voit bien que l'ensemble du corps électoral peut considérer que là c'est un candidat très en retard, et donc ça introduit un effet de mobilisation, ou c'est l'inverse, c'est un peu la spirale du silence. Un candidat, et c'est quoi ce qui s'est passé aux États-Unis, lorsqu'un candidat est maintes et maintes fois attaqué, qu'il est d'une certaine manière ostracisé, montré du doigt, ça a des effets de remobilisation que aucun sondage ne peut réellement mesurer.
Parce que vous disiez, Martial Foucault, que la science politique française est un peu rétive à l'expérimentation. Faisons une petite expérience justement avec cet échantillon, certes réduit, de 3 personnes que vous êtes. Je ne sais pas si vous êtes représentatif, mais en tout cas, est-ce que vous, les uns et les autres, par exemple, il vous est arrivé de voter en fonction des sondages qui vous étaient communiqués, par exemple en disant pour la primaire, je ne sais pas, primaire à gauche ou primaire à droite, peu importe, mais tiens, voilà, je vais voter pour tel candidat parce que c'est celui qui a le plus de chances lors de la présidentielle d'être au second tour, voire de l'emporter au second tour. Jérôme Sainte-Marie.
Oui, clairement, moi je suis persuadé que les sondages effectivement ont un rôle, et j'essaierai de le démontrer, ont un rôle d'autant plus grand que l'on est d'un niveau socialement élevé, contrairement à ce qu'on croit, et surtout que l'on est loin de l'élection. Mais pour répondre à votre question...
C'est-à-dire qu'il faut être capable d'élaborer une stratégie électorale.
Non, je dis simplement que les sondages, en fait, ont beaucoup d'influence sur l'offre politique finale d'une élection. Et donc les sondages ont de l'importance au moment où sont désignés les candidats, c'est-à-dire très loin de l'élection. Et pour dire les choses clairement, les sondages d'intention de vote n'ont jamais autant d'importance qu'à l'époque, qu'au moment, si vous voulez, où ils sont le plus abstraits, voire le plus irréalistes, puisque c'est des sondages qui sont fait, mettons, en septembre, si vous voulez, par exemple, 6 mois avant l'élection, un parti va choisir son candidat en fonction des sondages confidentiels ou publiés qu'il verra. Et bien sûr, 6 mois avant l'élection, si vous êtes un candidat, je prends les écologistes, par exemple, vous voyez, les gens répondent un peu... bon, on sait bien que l'information qu'on recueille est à peine une information. Et pourtant, c'est là-dessus que des décisions politiques vont être prises. Donc, je crois que ça joue beaucoup sur l'offre de la campagne. Ça joue encore plus maintenant avec les primaires, puisque là, c'est pas les sondages qui ont lieu durant la primaire qui ont de l'importance. C'est les sondages qui sont faits pour l'élection présidentielle. C'est-à-dire que beaucoup d'électeurs de droite, du centre actuellement, se disent qui est le plus qualifié, qui nous garantit la victoire lors de la prochaine élection présidentielle. Et ça, ils regardent
des sondages. C'est le 42-11 avec Hollande, dont on disait qu'il était le mieux placé pour battre Sarkozy.
Pour vous répondre très clairement, moi, bien sûr, que les sondages ont une influence sur mon choix et politique au sein de l'ère idéologique dans laquelle je me reconnais. C'est-à-dire que si j'ai dans mon ère idéologique deux candidats, eh bien, je vais choisir celui qui peut faire le plus de mal à ceux que je considère comme mes adversaires politiques.
Est-ce que vous avez la même attitude dans l'ère idéologique qui est la vôtre, Daniel Gaxi?
Alors, quand on se pose la question de savoir si les sondages ont des effets sur le résultat, on risque de confondre deux choses. Est-ce qu'ils ont un effet d'inversion du résultat? C'est généralement comme ça que c'est compris. Ou bien est-ce que ça a des effets sur des itinéraires de vote et sur des stratégies de vote? Alors, c'est pas du tout la même question. Alors, moi, je pratique un type particulier d'enquête sont des enquêtes dites qualitatives par entretien approfondi et répété dans le temps. Par exemple, au moment de l'élection de 2012, nous étions un groupe de chercheurs et nous avons rencontré des personnes à 4 reprises dans le temps, avant les élections, pendant les élections, après les élections. Bon, et ce que je peux vous dire, et j'y viens, c'est que, y compris des entretiens que j'ai fait moi-même, beaucoup de personnes intégraient les sondages dans leur évolution d'itinéraire d'intention. Et ça, on pouvait tout à fait l'observer.
Donc, est-ce que c'est quelque chose de problématique pour vous, ça?
Est-ce que les sondages pèsent sur le résultat? Ma réponse est oui.
Et est-ce que c'est problématique?
Est-ce qu'ils pèsent au point d'inverser les résultats? Je pense qu'on ne le sait pas.
Daniel Gaxi, est-ce que ça pose un problème que les sondages puissent peser sur le résultat d'une élection, ou bien est-ce que ça fait partie de toute manière aujourd'hui du jeu électoral, à partir du moment où on fait de la publicité pour ces sondages, et on fait cette publicité en plus de manière très très tardive, puisqu'ils sont seulement interdits la veille et le jour de l'élection, est-ce que ça c'est quelque chose qui vous dérange, disons?
Je vais vous renvoyer la balle. Les sondages, ça fait partie de la réalité, il faut faire avec. Par contre, le problème, c'est la manière dont on en parle. La manière dont on les présente et la manière en particulier dont les médias les présentent.
Martial Foucault.
Non, il y a peut-être un élément qu'on sous-estime, c'est au fond, est-ce que les sondages ont pris la place d'autres acteurs politiques, sociaux, dans une séquence électorale? La réponse est oui. Moi, je considère que si on parle autant et on accorde autant d'importance aux sondages bien faits, sondage crédible, c'est parce qu'il y a une parole qui s'est perdue, une parole des leaders politiques, une parole des syndicats, une parole d'autres personnes qui sont là aussi pour, d'une certaine manière, informer un électorat. Et donc, l'exposition de l'électorat au sondage, elle est réelle. Ça, je crois qu'on ne peut pas le contester. Lorsque tous les jours, on va avoir une enquête, un sondage qui va indiquer telle et telle avance pour un candidat. Là où il faut être très vigilant, et je pense que là, c'est vraiment véritablement le rôle des supports médiatiques qui sont souvent commanditaires de ces sondages, c'est au fond, ce serait de ne pas commenter, de ne pas publier des sondages de mauvaise qualité. Et quand on parle de sondages de mauvaise qualité, je reviens sur ce que disait tout à l'heure Louis Sainte-Marie, c'est lorsqu'on a des sondages sur lesquels on a une offre totalement fantaisiste, des candidats au mois de septembre qui, au fond, ont peu de chance d'être candidat à l'élection présidentielle, je pense qu'on ne devrait pas en parler. Mais, une fois dit cela, quand on regarde, d'un point de vue plus, j'allais dire, politologique, comprendre le cheminement, ce qui a conduit tel individu à choisir tel candidat, il faut bien un point de départ. Et prendre un point de départ, on ne peut pas regarder ça sur 3 mois. Ce n'est pas suffisant pour comprendre ce qui a expliqué que tel électeur a voté à droite ou à gauche. Donc il faut prendre un point de départ. Et en prenant ce point de départ, je pense que là, ça relève purement de la science, mais ça ne devrait pas être dans le domaine, du commentaire médiatique. Et ça, au fond, je vois bien, d'une certaine manière, on a presque perdu ce combat consistant à, d'une certaine manière, interdire ou ne pas faire publier des sondages avec des offres trop fantaisistes.
Parce que les médias ont besoin des sondages, parce que ça permet d'avoir des reprises et parce que aussi les instituts de sondage ont besoin d'être nommés pour pouvoir gérer d'autres activités en dehors des enquêtes politiques. Pour rebondir sur ce que disait Martial Foucault, Jérôme Sainte-Marie, sur finalement la très forte présence des sondages aujourd'hui, parce qu'il y aurait peut-être un défaut de relais d'opinion plus classique et qu'aujourd'hui, pour savoir ce que pense la base, eh ben, c'est le seul moyen, c'est le principal moyen qu'on a trouvé pour essayer de savoir ce que pensent les Français, comme on dit, de manière un petit peu rapide.
Oui, de toute façon, si on avait inventé une technique meilleure que les sondages, on serait depuis très longtemps passé de la critique des sondages au remplacement des sondages. Encore une fois, je crois beaucoup aux études qualitatives, mais je n'ai pas connaissance d'études ayant montré, avant le 21 avril 2002, en tout cas, les gens ont bien évité de le dire, qu'un quiconque annonçait autre chose que la qualification de Jospin pour le second tour. J'aimerais bien voir ça. Par ailleurs, on aurait... il fallait l'écrire avant.
Il y en a qui nous dit à l'intérieur du Parti Socialiste.
Non, il y a eu quelqu'un qui suivant Gérard Le Gall, suivant les sondages, a vu que, en prenant deux instituts, les courbes commençaient à se rapprocher, qu'il commençait à y avoir un risque. Et un des deux instituts était l'Institut BVR, dont je m'occupais à l'époque, mais personne n'avait réellement annoncé, en réalité, que les choses se passeraient autrement qu'annonçaient les sondages. Toujours est-il que, pour les sondages, ce qu'il faut bien voir, c'est que je crois qu'ils n'écrasent pas l'élection. C'est peut-être l'élément le plus important. Je reprends un exemple très ancien, je m'en excuse, mais l'exemple de 95, où effectivement on avait Édouard Balladur qui avait été encouragé par des bons sondages à se présenter au lieu de Jacques Chirac. Jacques Chirac était quand même maintenu et Jacques Chirac l'a finalement emporté. On a eu les sondages, événements très intéressants, les sondages lors des deux grands référendums sur l'Europe. Non seulement les sondages n'ont pas écrasé l'élection, mais même on a une inversion. Ils ont accompagné un mouvement d'opinion qui a abouti à la victoire du non, alors que le non était très faible au début de la campagne dans les sondages. On a eu une inversion et la victoire du non en 2005. Et donc,
sauf à considérer que ce que disaient les sondages a provoqué une réaction contre et inciter peut-être alors ceux qui allaient voter pour le non à aller voter et ceux qui envisageaient de voter pour le oui à ne pas se déplacer.
Apparemment, c'est pas le cas. Puisque lors du référendum européen précédent en 92 sur Maastricht, on avait eu d'abord effectivement un score très élevé pour le oui. Le oui avait été devancé trois semaines avant l'élection par le non, et le oui était redevenu majoritaire. Encore une fois, il faut faire confiance, vous savez, quand même, aux citoyens. Par ailleurs, les citoyens savent très bien que les sondages peuvent être démentis, c'est même, on n'entend que cela, et discuter avec n'importe qui vous dira la même chose. Donc de ce point de vue-là, il ne faut pas considérer les citoyens comme des mineurs, ils savent parfaitement que c'est une information tout à fait fragile.
C'est même plutôt rassurant finalement que les sondages puissent être démentis. Daniel Gaxi.
Oui, je pense vraiment maintenant, ce que j'ai envie de dire, c'est que la balle est dans votre camp.
C'est qui notre camp ?
Le camp des médias. Et que la responsabilité des médias quand ils présentent les résultats. Et ici, je dois dire quelque chose de très important. Ce soir, nous avons parlé d'un type très particulier de sondage. Des sondages électoraux.
Absolument.
Qui ont des propriétés très particulières. Lesquelles ? Ils sont faits avec beaucoup de soin. Il y a des gros budgets. Il y a une très forte concurrence. Donc, il y a toutes sortes il y a des moyens de correction. Il y a des moyens de redressement. Tous les sondages ne sont pas comme cela.
Ça fait une élection primaire.
J'ai en tête les sondages d'opinion. Les sondages d'opinion. Si vous demandez est-ce que vous êtes favorable au rétablissement ou pas de la peine de mort, oui. Là, il faut savoir que, un, il y a moins de concurrence, deux, les budgets sont plus faibles, et trois, il n'y a pas de possibilité de correction. Donc, le message en direction des médias, c'est que là, vous risquez d'avoir des marges d'erreur, c'est un terme impropre, mais peu importe, encore beaucoup plus considérables que ce qu'on mesure sur des sondages électoraux.
C'est vrai que la discussion aurait mérité qu'on élargisse davantage, mais bon, 40 minutes, c'est quand même assez court. Sur les sondages électoraux, quelqu'un que vous connaissez évidemment tous les uns et les autres, c'est le sociologue Patrick Champagne, qui dit que ce sont les sondages les plus fiables, les moins contestables, parce que sont aussi les seuls qui peuvent être vérifiés, puisqu'il est possible de comparer les derniers sondages avec le vote effectif. Donc voilà, il y a un travail de vérification. Vous disiez, Martial Foucault, je vous ai entendu dire, sauf pour les primaires. Alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'articles ces jours-ci qui expliquent que les sondages sur les primaires de la droite et du centre, ils sont compliqués, parce que d'abord, c'est la première fois que qu'il y a ce travail, enfin, qu'il n'y a pas vraiment de base de référence pour cette primaire, que la taille du corps électoral fait que quelques milliers de votants peuvent modifier des résultats, et que par ailleurs, il y a une instabilité des intentions de vote, parce qu'on passe plus facilement, par exemple, de Juppé à Sarkozy que de Juppé, disons, à Mélenchon ou à, je sais pas moi, mettons François Hollande. Du coup, est-ce que ça veut dire que ça ne sert à rien de faire des sondages sur cette élection de la primaire de la droite et du centre ?
Encore une fois, si. Si on utilise le sondage pour connaître plusieurs jours avant le résultat du premier tour, oui, d'une certaine manière, il faut garder prudence et il faut se dire une seule chose.
Il y a un tel niveau d'incertitude qu'on se dit, voilà.
Mais justement, il faut ne cesser de répéter qu'on ne connaît pas le nombre de personnes qui vont se déplacer dimanche. Et en fonction du nombre de personnes qui vont se déplacer, le rapport de force, l'ordre d'arrivée des candidats au premier tour peut être bouleversé. Et deuxième élément, pourquoi on a besoin d'une référence ? C'est précisément pour ce que on disait il y a quelques minutes. On a besoin de corriger des catégories qu'on n'aurait pas saisies. On va essayer de les corriger, ces fameux redressements. Mais ça, on a besoin d'une histoire passée et souvent très longue. Et c'est un peu plus que la dernière élection dans le meilleur des cas.
Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Jérôme Sainte-Marie, Martial Foucault, Daniel Gaxi, émission que vous pouvez réécouter comme chaque jour sur notre site internet franceculture.fr, la page du Grand Mood. Vous pouvez la réécouter aussi longtemps que vous le souhaitez. Bon, vous vous êtes pas mouillé en termes de résultats et de pronostics, donc voilà. On peut la réécouter dans un an ou dans deux ans. Vous verrez qu'il n'y a rien de mal qui a été dit. Émission que vous pouvez également commenter sur notre fil Twitter. Un grand merci à toute l'équipe du Grain, Cyril Baer, Céline Leclerc, Fanny Richer, Sarah Maquet, Isolte Sicard. Émission réalisée par Jean-Christophe Francis avec à la prise de son Élise Le. Demain, Cour pénale internationale, pourquoi Béchir et pas Bachar ? Ce sera la question que nous poserons à partir de 18h20.